Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site. Les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animé par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent et de ceux qui le partagent depuis 2000.
Je suis un gourmand, moi. J'aime bien, tu vois, quand dans un plat, il y a de l'amour. En gros, du beurre, tu vois. Et donc, dans un vin, je dois retrouver à peu près la même chose. Beaucoup de gourmandises. Je veux que ce soit ouvert, jeune, même jeune. J'aime bien que ça soit bien, bien charmeur. Donc, c'est pas mon style.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
Chers auditeurs, chères auditrices, en route pour Meursault, avec dans nos bagages Florent Giroux du domaine Combriac, avec qui nous avions déjà partagé le micro chez Claire Naudin. Cette fois-ci, c'est un vigneron que nous interrogeons. Un vigneron qui commence à se faire un prénom, ce qui est un joli tour de force en Bourgogne. Dans ce village où le poids de la tradition peut parfois être très lourd, il a réussi à apporter au vin du domaine ce petit plus qui fait toute la différence. Ce vigneron, c'est Pierre-Henri Rougeau, qui vous accueille tout de suite dans sa cave.
Bonjour Pierre-Henri Rougeau.
Salut Romain.
Merci beaucoup de nous accueillir, nous trois, et puis également Florent Giroux du domaine Combriac à Bergerac. Donc on est dans ton chais là, entouré de belles barriques. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ?
Non, je vais commencer par te reprendre.
Ouais.
On est dans une cave,
ouais. Okay.
Et ce sont des fûts que tu vois autour de toi. C'est très très important de parler bourguignon en Bourgogne. Donc, pour me présenter, je m'appelle Pierre-Henri Rougeau, j'ai donc 41 ans. Je suis vigneron depuis pas si longtemps que ça, puisque je suis revenu sur le domaine en 2019. Auparavant, j'ai travaillé pour une tonnellerie, puis un petit peu avant pour des marchands de vin pendant 2 ou 3 ans en Bourgogne. Et juste auparavant, je faisais un lycée viticole à Beaune. Voilà.
Donc tu dis que tu es revenu, parce que c'est un domaine familial. C'était ton père avant toi qui s'occupait du domaine. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de la construction du domaine, s'il te plaît ?
En termes d'historique du domaine, les générations avant mon arrière-grand-père, je les connaissais un peu moins. C'est un domaine qui, a priori, existe depuis à peu près 10 générations sur le village. On a un petit peu plus d'historique, moi, de ce que je connais, lorsque mon arrière-grand-père a repris la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est située, on va dire, sur le haut du village. Et donc, à l'époque, il y avait à peu près 6 hectares. Il y avait un peu de polyculture. L'arrière-grand-père avait, comme tous les gens du métier, du mal à vivre de son métier de viticulteur. Donc un peu de polyculture, le petit potager à côté, bref, une vie simple, basée autour du vin, mais pas que. Mon grand-père, lui, est arrivé avec son âme d'entrepreneur enthousiaste et beaucoup de projets. À l'époque, on est après-guerre. Il y a beaucoup de choses à refaire, à reconstruire. Le vignoble de Bourgogne et de Meursault en particulier, puisque c'est là qu'on est basé, est en reconstruction après les années phylloxéra, les différentes replantations, remembrements. Donc il y a à l'époque beaucoup de parcelles à arracher ou à replanter. Des terrains préparés, et donc mon grand-père s'est spécialisé dans cette préparation de terrain. Il était donc entrepreneur viticole, préparation et plantation de terrain de vignes. Et bon, à l'époque, il a commencé, il n'y avait pas de tracteur, hein, donc au cheval. 1, 2, 3 chevaux, et puis après sont venus les premiers bricolages de tracteurs. Ils travaillaient aussi avec des engins qui avaient été laissés par les Américains après-guerre, des bulldozers, des trucs comme ça, donc ils en avaient tous dans le coin. Et il a participé avec deux de ses amis à la construction des premiers enjambeurs, donc la maison Loiseau à l'époque, qui était basée à Meursault, qui a repris ce brevet par la suite et qui en a fait une production. C'est une amie, Marthe Henry, qui a toujours le prototype de l'enjambeur chez elle, qui était avec un moteur de voiture, et puis ils avaient bricolé un châssis pour le surélever. C'était assez rigolo et dangereux, j'imagine, mais beaucoup plus efficace que le cheval. Et donc, ça a grossi. Mon grand-père a créé une société de travaux publics. Et en parallèle, il avait donc ce domaine familial. Une autre activité s'ajoutait, puisqu'ils avaient aussi... Donc ça a commencé dans les années 70, 72, je crois. Ils avaient le fermage du château de Meursault. Donc c'est eux qui s'occupent, enfin c'est l'équipe du domaine Rougeau qui s'occupait des vignes, de la récolte, du pressurage et fermentation des blancs du château de Meursault. Donc il y avait 25 hectares en plus qui étaient faits ici au domaine. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque, hein. C'était pas du 35 heures.
Parce qu'aujourd'hui, tu fais 35 heures, toi, maintenant ?
Mes employés, en tout cas. C'était un petit peu l'aventure à l'époque. Il y avait tellement de projets à refaire. Les choses étaient quand même beaucoup plus simples aussi. Aujourd'hui, les choses sont stabilisées, cadrées par... l'État, tout ça. Et... Donc, mon père, lui, est arrivé dans les années 72, 74 exactement. Et le domaine, à l'époque, a grossi un petit peu. Mon grand-père avait déjà commencé à racheter un peu de vignes sur Pommard, sur des Volnay-Centenot, donc situés sur Meursault. Un petit peu de Meursault-Charmes aussi. Et le domaine en est venu à 13 hectares et demi à l'époque, puisqu'il y avait un hectare de Ladois que mon père a revendu une dizaine d'années après. C'était un peu loin, éloigné du domaine, et ça n'avait pas vraiment de sens.
Ouais, c'est à 25-30 minutes de route d'ici, facile. Quoi.
En tracteur, c'est un peu plus loin. Ouais. Donc, c'était pas raisonnable de le garder, il n'y avait pas vraiment de sens. Pour se concentrer aujourd'hui donc sur une surface qui est de 12 hectares et demi, avec 10 hectares qui sont situés sur le village de Meursault. Le domaine est constitué d'à peu près moitié de Bourgogne générique, donc aligoté, passe-sous-grain, plusieurs Bourgogne blanc, Bourgogne rouge. Alors à l'heure actuelle, deux Bourgogne village. On vient de reprendre une toute petite parcelle sur le village qui appartient à la commune de Meursault, qui le loue aux jeunes vignerons, enfin en tout cas jusqu'à 40 ans, et on peut donc le garder. Sont des baux de 25 ans, donc on est très content d'avoir cette nouvelle petite parcelle. Donc un Meursault Charme, et puis donc à côté de ça en blanc Montlhy Saint-Romain, et en rouge donc Pommard et Volnay.
Avant qu'on parle un tout petit peu plus de toi là, je voudrais que tu nous racontes une petite anecdote. Tu as parlé du parcellaire de Volnay que vous avez, mais qui est sur la commune de Meursault. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Est-ce que tu sais d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'il y a... Déjà, quelle est la situation et pourquoi est-ce que c'est comme ça?
Ça fait partie de... Ce matin, j'étais avec un mec extraordinaire qui a écrit un bouquin qui s'appelle Monsieur Vilaine, un peu comme De Vilaine, mais sans le deux. Malheureusement, son bouquin n'est plus dispo, mais les infos qui sont dedans sont géniales. Il a fait l'historique de la Bourgogne. Alors, il y a plusieurs livres comme ça, mais son livre comporte pas mal d'informations chiffrées. C'est assez intéressant, et notamment il parle des classements. Il est reparti du classement de Laval, qui est un peu vraiment le classement fondateur ici en Bourgogne, et puis après le classement des appellations donc en 1937. Donc c'est relativement récent au final. Alors pourquoi ce Meursault, enfin c'est un peu un lapsus, ce Volnay Centenot est situé sur la commune de Meursault, c'est un peu des guéguerres de clochers. Alors, moi, il y a ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. A priori, c'est un peu une guéguerre de clochers. Il y a un certain nombre de propriétaires de Volnay, dont un peu plus influent que les autres, qui avaient du Volnay Centenot, qui l'appelaient Volnay, mais situé sur le village de Meursault depuis longtemps, planté en rouge, très bon terroir, qui fait des vins plutôt de grande garde.
Oui, parce que la petite ironie en plus, c'est qu'on est à Meursault, il y a certes un peu de rouge, mais c'est quand même connu pour son vin blanc, et là les parcelles de Volnay, c'est en rouge.
Évidemment. C'est là où réside la petite subtilité, c'est que ces propriétaires qui avaient ces parcelles-là, qui étaient aussi des propriétaires de Volnay, l'appelaient Volnay par usage, coutume, bref. Quand les appellations, quand les syndicats des différentes appellations se sont mis à réfléchir sur le cahier des charges et la délimitation, il fallait poser ces limites. Et donc, administrativement, tout ce qui était posé sur la commune de Meursault devait être du Meursault, logiquement. Un domaine relativement connu à l'époque, donc là, on parle de l'arrière-grand-père de l'actuel propriétaire, a assigné en justice le syndicat de Meursault pour faire valoir son droit à appeler sa parcelle Volnay Centenot Cise à Meursault. Et il a gagné. Il avait pas mal d'appui politique à l'époque et c'est passé. Bon. Tant pis pour nous les Murisalciens, on perd un Meursault Centenot qui aurait pu être une particularité. C'est comme ça, c'est la vie, on va pas refaire le cahier des charges. Voilà la petite anecdote.
Bon, revenons à toi maintenant. Tu nous as dit que tu étais vigneron depuis quelques années seulement, enfin que tu étais revenu au domaine il y a quelques années. Tu es finalement revenu assez tard, vers 37-38 ans si je me trompe pas.
C'est ça.
Pourquoi t'es revenu si tard et qu'est-ce que t'as fait avant? C'était pour bourlinguer un peu et faire ton expérience?
Donc, j'ai un, comme je disais dans le portrait du grand-père, quelqu'un d'un peu hyperactif, le patriarche à l'ancienne, qui voulait clairement pas arrêter de bosser, quoi. Même s'il mettait plus les mains dans le cambouis, on va dire que jusqu'à l'âge de 90 ans, il était là, quoi. On va dire de façon quotidienne, il venait vérifier ce que mon père faisait. Il était impossible d'être trois générations sur une même structure toute petite, hein, puisque un domaine qui fait 12 hectares, on est entre 6 et 7 salariés. Donc c'est vraiment des micros, des petites structures, quoi. Donc voilà, trois générations ensemble, ça ne fonctionne pas. Donc mon père m'a toujours dit, quand j'étais plus jeune, il me dit écoute, moi je suis jeune, prends ton temps, va voir ailleurs, fais ta petite expérience, et puis si un jour tu peux revenir sur le domaine, ça sera la cerise sur le gâteau. Donc j'ai attendu, j'ai fait d'autres jobs, mais qui tournaient tous évidemment autour du vin. Et puis 2017, là je pouvais plus, j'en pouvais plus, ça tardait. Donc là, à ce moment-là, tout simplement, j'ai créé mon petit négoce et puis j'ai fait mon propre vin. Voilà où on en est.
Juste pour finir sur les Volnais, là, Centenot, c'est une parcelle qui peut être qu'en Volnais aujourd'hui, ou alors si vous plantez des blancs, par exemple, ça pourrait être
du Meursault.
Du Meursault, ouais.
Donc absolument, ça peut être les deux. Planté en blanc, ça s'appelle Meursault Centenot. Planté en rouge, c'est Volnais Centenot.
Alors, reviens à toi. Donc, tu as lancé ton négoce, mais avant ce négoce, comment tu t'es formé au vin, et est-ce que ça avait toujours été naturel pour toi, l'envie de travailler dans le vin et de revenir au domaine?
C'est quelque chose à laquelle je ne pensais pas vraiment quand j'étais gamin. C'est devenu une passion un peu quand j'ai eu, on va dire, vers les 18 ans, quand j'ai commencé à goûter les vins que goûtait mon père à l'époque. Plutôt pendant les repas de famille. Et puis après, je me suis dit, je vais aller goûter un peu ce qu'il y a d'autre. Alors, on commence par... à l'époque, moi, j'étais passionné de Châteauneuf-du-Pape quand j'étais plus jeune. C'est un peu moins le cas maintenant, mais j'aime toujours. Et après, j'ai fait le lycée viticole. Et là... tu rencontres plein de monde qui est déjà dedans depuis longtemps, qui, eux, ont monté sur le tracteur de papa à l'âge de 6 ans. C'était pas mon cas. C'est venu un peu plus tard, quoi. Donc après ce lycée viticole, on fait des stages, ce qui clairement nous apprend beaucoup plus que ce qu'on voit sur le tableau et dans les livres. Et puis, il n'y avait plus que ça qui existait pour moi après, tout simplement. C'était devenu naturel. Je ne pouvais pas bosser ailleurs que dans le milieu du vin.
Est-ce qu'avant de revenir ici, là, il y a des domaines ou des personnes qui ont construit un petit peu ta vision du vin et tes goûts?
Ouais, il y en a quelques-uns en effet. On a toujours deux trois mecs qui tout d'un coup t'inspirent et parmi ceux-là, en fait, la plupart, je les ai découvertes pendant que je bossais pour commercial pour une tonnellerie. J'ai commencé par les secteurs de la Vallée de la Loire et de la Bourgogne aussi, évidemment, mais ceux que je connaissais moins, c'était plutôt la Loire. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est Nicolas Rau, qui est vigneron en Anjou. Et ce mec, un jour je suis arrivé, j'étais vraiment un bleu, quoi, dans le métier de la tonnellerie. je ne savais pas du tout de quoi je parlais. Ça devait être, ça faisait 2 semaines que j'étais embauché. Et je m'étais ramené avec ma petite veste, tout nickel. On s'était fixé un rendez-vous à l'avance. Il m'a dit oui, bah passe à la cave, tout ça. Bon, j'arrive, il était 16h. Et il était à table, en train de déjeuner. Il était à la fin hein, du déjeuner. Et puis, il me dit, bon alors, t'es venu les mains vides ? Je lui dis, ouais, tu veux dire quoi par là ? Bah, t'as amené une bouteille ? Je lui dis, bah non, j'ai rien. Attends, je lui dis, merde, j'ai une bouteille de cognac. Alors, je vais chercher une bouteille de cognac, boum, pif, paf, on goûte ses vins et tout. Et puis, donc, je découvre ces vins qui... Bon, je ne le savais pas, hein, on n'avait pas parlé de cet aspect-là, mais c'était des vins naturels, enfin, dits naturels. Et franchement, il y avait des trucs extraordinaires. Avec lui à table, il y avait... à l'époque, Sébastien Bobinet et d'autres confrères. Et on a passé un moment juste dingue. J'ai vendu aucun fût, évidemment, mais j'ai appris pas mal. J'ai fait des connaissances comme ça. Et ouais, ce mec-là m'a pas mal marqué. Après, on est resté quand même très amis. On se voit de temps en temps, à la Dive notamment, mais pas que. Et il m'a présenté à tous ses copains. Et là, j'ai découvert des vins qui m'ont passionné, quoi, qui me filaient des vrais frissons. Et quand j'ai découvert comment c'était fait, je me suis dit, mais putain... Pourquoi on fait comme ça ? Pourquoi on fait comme ça chez nous, enfin au domaine familial ?
Ouais, c'était très différent des vins que faisait ton père.
Ouais, c'était à l'opposé. Mon père faisait des vins plutôt classiques, on va dire, à l'époque conventionnelle, et eux, ils étaient libérés, quoi. Tu vois, c'était des vins épanouis, plein de fruits, mais avec une vraie profondeur du terroir. Et tu voilà, tu sentais qu'il y avait de l'âme là-dedans, quoi. Donc après, ça c'était en 2008-2009. Et en 2010, ça me tardait un peu de rentrer au domaine. Donc, j'en parle à mon père. Je lui dis, bon, alors, on en est où ? Il me dit, oh, bah, écoute, non, c'est encore un peu tôt. Papy est encore là. Bon, bref. Et je lui dis, bah, écoute, moi, tu sais, pendant les vendanges, le tonnelier, il ne va pas vendre des fûts pendant les vendanges. Hein. Il le fait avant ou il le fait après, mais pas pendant. Je lui dis, bah, voilà, j'ai 2-3 semaines... Je suis à peu près tranquille, je peux peut-être venir vous aider en cuverie. Donc ça, c'était en 2009, où je fais ma première vinif au domaine en tant qu'aide, quoi, tu vois. Et puis, en 2010, mon père me dit, en fait, j'ai plus envie de m'en occuper des vinifs, donc c'est toi qui vas faire. Ok, d'accord. Alors, évidemment, à l'époque, j'étais... pas très, très à l'aise sur le sujet. Donc, mais malgré tout, j'avais envie de faire 2-3 tests de choses un petit peu plus différentes. Donc je lui dis, écoute, tiens, j'aimerais bien faire un essai de vendange entière sur des rouges, sans soufre, machin. Parce que j'avais aussi découvert en 2009, mais aussi un peu avant, mais je m'en étais pas... Bref, moins rendu compte. En utilisation, pendant les vinifs, on utilise des doses qui sont assez importantes, on utilisait. Et donc, lors de ma première vinif tout seul en 2010, j'ai demandé à mon père si on ne pouvait pas faire des essais sans utiliser ce bon produit. Donc, c'est à ce moment-là où on a fait en effet un essai en rouge. C'était sur un Bourgogne rouge à l'époque, un Bourgogne Noël Amrose. Qu'on a fait en grappe entière, chance du débutant, c'était pas mal. Et on a mis ça en bouteille au bout de 18 mois, c'était plutôt bon, gourmand, le millésime était beau. Ça avait fait des beaux pinots assez fins. Et on reproduit en 2013, millésime beaucoup plus compliqué. Les vignes avaient été grêlées assez tard. Les maturités étaient très moyennes. Ça a fait des blancs corrects, mais des rouges un petit peu moyens. Et là, c'était pas top.
Grappe entière aussi, en 2013 ?
En grappe entière aussi, ouais.
Ouais. Avec le recul, c'était un bon choix ou pas ?
Oui. Avec le recul, je dirais que oui. On se rend compte que même sur les mauvais millésimes un peu frais, la grappe entière, ça désacidifie un peu le vin. Malgré tout, il faut prendre un peu d'expérience sur cette grappe entière. Et au début, j'avais pas. Je voulais faire un peu le truc. Comment dire ? Un peu trop bien. Et du coup, j'avais juste pigé à la main, très très délicatement. Je m'étais dit que la grappe entière pouvait apporter des tanins trop durs. Et ben, c'était un peu une erreur. Oui, il faut y aller délicatement, mais un peu plus puissamment que ce que je faisais en 2013. Donc après, ben, on se perfectionne, on va un peu plus loin. Les tout petits lots de vinification qu'on faisait donc sur des essais, c'était bien, mais relativement peu concluant sur des tout petits volumes. On va dire que la qualité de la vinif est plus compliquée à obtenir. En tout cas, je la maîtrisais moins à l'époque. Et donc, en 2015, on s'est dit qu'il fallait passer à l'étape supérieure et vinifier donc toutes les cuvées du domaine en grappe entière et sans soufre, en rouge. Pour les blancs, on avait fait qu'un seul essai de vinif sans soufre, mais pas d'élevage sans soufre à l'époque. Donc 2015, millésime très solaire, il y avait pas mal d'alcool à l'époque, on était au début de la compréhension de ces millésimes chauds, et au pire c'est là où j'aurais dû égrapper un peu, tu vois. Avec le recul, on voit que les vins étaient quand même très très tanniques. Alors ça leur donne un beau potentiel de garde, mais ils étaient quand même un peu trop structurés à mon goût, quoi. Aujourd'hui, quand on voit des niveaux d'alcool très élevés, enfin des niveaux d'alcool potentiels, j'ai tendance à égrapper un tout petit peu. 20-30%, pas beaucoup, pour garder ce côté que j'aime de la grappe entière. Mais on sait que l'alcool extrait naturellement pas mal de composés, notamment tanniques.
La grappe entière, ça a été longtemps une pratique très commune en Bourgogne. Qu'est-ce qui a fait que ton grand-père ou ton père a décidé de dégrapper entièrement les raisins ?
Donc en gros, tu es dans les années 75 à peu près. 75, ouais, les premiers égrappoirs qui arrivent, en tout cas performants. Et à l'époque, la Bourgogne commence à vendre un peu de vin. Et sont arrivés aussi à ce moment-là les clones. Donc les sélections clonales dans les vignes, des rendements plus importants. Et tout ça découle à plein de problématiques logistiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec le même vignoble, tu fais, on va dire, 20% de plus de production. Mais ces 20% de plus, tu n'as pas forcément la capacité pour les rentrer en cuverie. Et les grappoirs arrivent, et tout d'un coup, tu gagnes 30% de place dans ta cuve. C'est fabuleux. Et en plus de ça, ça enlève un côté austère au vin. Ça l'arrondit un peu et il se boit plus jeune. Il n'y avait que des avantages. Donc c'est pour ça que ça a été, à mon avis, massivement utilisé dans ces années-là. Il faut se rappeler aussi un peu de la climatologie de l'époque, hein, qui était pas très drôle. Les années 80, il y a eu quand même une traversée de millésimes horrible dans la région.
Ça mûrissait moins bien qu'aujourd'hui. Ouais.
Ah ouais, ça mûrissait vachement moins bien. Et après, On va dire que le... c'était une bonne réponse. Les grappoirs, ça permettait voilà, de faire ces vins un peu plus souples, qui se consommaient un peu plus jeunes. C'était déjà, au final, le début d'une nouvelle ère en Bourgogne. Parce qu'à l'époque, les vins, il fallait 15 ans pour les boire. Quoi. Les grappes entières... Alors, mon premier job en sortant de chez... du lycée viticole, c'était chez De Monti pendant un an. Je me rappelle avoir goûté des vieux De Monti des années... enfin, vieux pour moi. Des années 80, voire 75. Fallait s'accrocher quand même. Hein. Il y en avait dans le slip, quoi. Et pourtant, c'était bu... Enfin, on les a bu 25 ans après, quoi. Et... Bon, c'était de la grappe entière à l'époque chez lui. Ce qu'ils font maintenant en grappe entière est passionnant. La climatologie a changé. Et puis, on... Enfin, moi, cette grappe entière, elle m'était vraiment inspirée par... j'ai eu la chance de goûter une ou deux fois des vins de la Loue quand j'étais jeune. Pareil, grappe entière, petit rendement. À l'époque, et c'est toujours le cas, c'était 100% fût neuf. Donc ça faisait un style de vin assez incroyable, qui l'est toujours, même si on peut plus les acheter. Et ces pinots-là m'ont passionné. Tout d'un coup, tu rentres dans un monde que tu connais pas, où il y a une petite touche végétale, une complexité florale que tu ne trouves pas du tout ou très très peu dans les pinots égrappés.
Pour mieux comprendre aussi l'utilisation de la grappe entière, est-ce que pour toi, à partir du moment où tu fais des vinifications avec des grappes entières, ça sous-entend que tu fais des macérations moins longues ?
Alors chez moi, oui. Tu vois... C'est des choses qu'on a beaucoup changées, la durée de cuvaison. Au tout début, mon père faisait 3 semaines de cuvaison. Ça commençait par 5-6 jours de macération à froid, macération légèrement sulfitique. Hein. Et puis après, on enchaînait avec la vinif, donc à peu près 2 semaines. Aujourd'hui, cette étape de pré-fermentation à froid, elle n'existe plus. Les fermentations se lancent naturellement au bout d'une journée et demie à peu près. On essaye de rentrer des raisins qui soient ni trop chauds ni trop froids. C'est un peu le combat pour rentrer ces raisins à bonne température quand il fait trop chaud, mais aussi s'il fait trop froid, c'est compliqué. Donc on essaye de les rentrer à 15-16 à peu près, qui puissent démarrer à basse température, mais démarrer vite. Et puis ensuite, on fait des cuvaisons maintenant de 8 à 10 jours. Donc en effet, c'est très court. Ouais.
Et ensuite, on passe aussi pas mal de temps pour trier les raisins, pour enlever à la main les quelques baies qui sont un peu flétries ou abîmées, etc. Et est-ce qu'on peut imaginer le même travail avec les rafles, finalement, qui sont certainement très, très hétérogènes,
ouais.
Avec éraflage ou pas avant, pour après les réintégrer ?
Alors, on réintègre pas les rafles. Ça se pratique parfois. On garde le raisin entier. On va le trier. Donc, on essaye de le trier à peu près aux différentes phases de la récolte, c'est-à-dire premièrement à la vigne, où on voit qu'on trie à peu près la moitié de ce qui doit être fait. On trie le restant un peu plus finement à la cuverie. On a 2 équipements, une première table vibrante qui enlève ces petits grains tout secs, les petits insectes aussi. Et puis après, on passe sur donc, une table de tri, une bande rotative. Où là, c'est manuel. Et puis, on va prendre chaque grappe. Et puis, on enlève ce qui doit être enlevé. Donc, il y a des années, on prend l'exemple de 2022. Il y a plein de cuvées qui n'ont pas été triées parce qu'il n'y avait pas besoin. Au début, on avait installé tout, comme les bons élèves, tout le matos. Et puis, la première parcelle de rouge arrive. Puis, il n'y avait vraiment pas grand-chose à trier. 2-3 grains un peu trop secs. Et puis, mais bon, quand tu es à 1 ou 2%, tu laisses passer, quoi. Et donc, après, le reste, la plupart est passé sans tri. 2023, c'était vraiment une autre histoire. Là, il y a eu le mauvais temps de l'été et beaucoup plus de tri à faire sur les rouges. Il fallait être très méticuleux. Mais bon, oui, c'est important de bien trier ça. Donc, on laisse la grappe intacte, hein, et elle va directement dans la cuve. Ce qui permet d'avoir une première partie de fermentation en intracellulaire dans la baie. Le pinot, quand on l'égrappe, même avec des égrappoirs performants, malgré tout, la baie a tendance à laisser s'échapper le jus. Et donc, on perd un peu cette caractéristique des premiers degrés fermentés en intracellulaire qui donnent ce fruit un peu gourmand que j'aime beaucoup. Donc, on aime bien rester là-dessus, quoi.
Et j'imagine que tu te prêtes à la dégustation à l'aveugle de temps en temps. Et est-ce que tu arrives à reconnaître, en fait, si, dans les vins rouges, s'il y a de la grappe entière ou pas? Est-ce que finalement c'est un marqueur quand même assez fort?
Ouais, c'est souvent un marqueur que je recherche. Donc, est-ce que j'arrive à le deviner tout le temps? J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Souvent, en tout cas. Il y a des marqueurs forts, hein, sur la grappe entière. Il y a eu 2-3 surprises de copains qui font des raisins, enfin de la vendange égrappée, et où j'avais l'impression qu'il y avait de la vendange entière. Alors, sans surprise, par contre, c'était sur des beaux terroirs et des beaux millésimes. Et quand c'est bien fait, avec un bon matériel, ça marche bien, quoi. Ouais.
Alors, égrappage, vin sans soufre, c'est comme des gros changements. Est-ce que ton père, il a été facilement convaincu par les essais que vous avez faits?
Ben, tu vois, ça a demandé, on va dire, 5-6 ans, donc c'est pas si énorme. Est-ce qu'il a été convaincu? En fait, c'était facile, parce qu'il a jamais... Je le fais un peu parler là, mais je pense pas qu'il ait jamais beaucoup aimé la vinification en rouge. Autant le blanc, ça je suis sûr qu'il aimait bien, mais le rouge pas du tout. Et en tant que vigneron de Meursault, la plupart des vignerons de Meursault s'occupaient pas beaucoup de leur rouge jusqu'à il y a 10-15 ans, quoi. Ça a beaucoup changé maintenant, hein. Faut être honnête, la qualité général, c'est beaucoup amélioré. Donc, en fait, reprendre cette vinification de rouge, c'était un peu l'épine dans le pied de mon père qui s'enlevait, tu vois. Il était presque soulagé.
Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est toi qui a initié ensuite la conversion en bio du domaine?
Bon, hier, c'est d'un commun accord. Je pense que lui, il y pensait depuis un certain nombre d'années, sans... Peut-être qu'il attendait qu'on en parle, pour se dire, bon, allez, on se lance, on le fait. Mais ça a été fait d'un commun accord. Par contre, là où il m'a un peu plus surpris, c'est sur le passage en biodynamie, où moi, je me sentais peut-être moins prêt. C'était donc il y a 3 ans, en 2020. Donc on venait de finir la conversion bio, et puis en parlant, on se dit, bon, biodynamie, c'est quand même sympa. Puis on commençait à aller goûter chez des copains qui pratiquent depuis un certain nombre d'années, de voir de réels gains sur la qualité des raisins, sur le goût des raisins, sur la qualité des sols. Et à ce moment-là, mon père me dit, bon, allez, on y va. Il me dit, de toute façon, je pars pas à la retraite tant qu'on n'est pas en biodynamie. Alors j'ai dit, bon, ok, allez, vite, on fait ça. Et donc, on a foncé. Bon, au final, après coup, on se dit, franchement, pourquoi attendre? C'est pas si extraordinaire que ça. Hein.
Vous êtes certifié? aujourd'hui, où vous êtes en cours de certification ?
Donc, 2023, le millésime sur lequel tu es assis, est certifié biodynamie en Déméter. Ouais.
Et pourquoi avoir choisi Déméter comme label ?
Déméter pour son côté peut-être un petit peu plus progressiste, en tout cas de mon point de vue, sur la biodynamie, avec un petit peu plus de recherche. Il se trouve que c'est une entreprise qui est un peu plus grosse que Biodivin, ils veulent progresser sur la pratique biodynamie en apportant des choses qui fonctionnent un peu plus vite, qui sont un peu plus efficaces. Alors bon, après, c'est des petites subtilités, mais...
Et c'est vraiment des questions gustatives qui vous ont convaincu d'aller dans cette voie-là, c'est en goûtant les vins des autres ?
Ouais. Ce qui ressortait à mon goût, de mes dégustations, c'était toujours des vins en biodynamie. Ou des mecs qui pratiquent la biodynamie sans le dire. Donc à un moment donné, tu te dis, bon, ok, pourquoi faire autre chose ? Alors, il se peut que ces vignerons qui pratiquent la biodynamie soient peut-être plus attentifs à ce qu'ils font et que, d'ailleurs, il y en a des collègues qui travaillent en conventionnel qui font des vins extraordinaires. Les mecs sont à deux doigts de faire du bio, mais ils veulent pas parce que ils sont gênés par un potentiel carcan, des règles. Ils veulent être libres. Mais bon, c'est pas parce qu'on est en bio qu'on n'est pas libre. Hein. Le moment où, admettons que ça déconne un jour, qu'on soit à deux doigts de perdre la récolte, bon, même si je suis persuadé qu'on irait au bout, ok, pourquoi pas, t'arrêtes et puis tu reprends une conversion après, c'est pas compliqué.
Est-ce que maintenant que vous êtes certifié, ton père a respecté sa promesse de partir à la retraite ?
Absolument pas.
Quels sont vos futurs projets du coup ? C'est quelle idée il a mis sur la table cette fois ?
Donc là, on commence tout doucement la transmission. C'est une étape, c'est en plusieurs étapes. Il faut prendre son temps pour faire les choses bien. Donc voilà, on espère que ça va se passer en douceur. On se donne 4-5 ans à peu près. Donc il a pris quand même beaucoup de recul. Il se passe plus grand chose aujourd'hui sur lequel il prend une décision seul. Et c'est respectable parce que c'est dur de se mettre en retrait de son job. Puis, comme vous le savez, là on est chez eux, c'est leur maison. Il fait ça depuis qu'il a 14 ans, donc à un moment donné c'est dur d'arrêter, je le comprends, hein. Mais bon, il faut laisser la jeune génération arriver gentiment. Quels sont les nouveaux projets ? Excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question. On a un petit truc parce que je suis un amateur de bulles. Et donc ça faisait quelques temps qu'on voulait faire ça. Là, ça fait deux beaux millésimes qu'on a. On se dit bon, allez, on va se lancer, on va essayer de faire un petit crément. Donc c'est pas une énorme cuvée. Hein. Attention, on va faire 2000 bouteilles, mais c'est le petit projet de cette année, ça. Voilà.
Tu parles de transmission, là, j'imagine. Donc la transmission du domaine, ça fait quand même 10 ans que tu nous racontes un petit peu en creux comment ça s'est passé. J'ai la sensation que ça s'est passé de façon assez douce, ce qui est quand même plutôt relativement rare dans les cas qu'on a rencontrés,
ouais, c'est
de
le cas.
Père à fils ou de génération en génération, est-ce que ça a été le cas et pourquoi dans d'autres cas ça se passe pas comme ça ? Pourquoi c'est pas la généralité que ça se passe de façon un peu douce comme ça ?
Attention, je vais me mettre des copains à dos là. Alors là, pourquoi ça se passe bien ? Sûrement parce que peut-être mon père a eu une mauvaise expérience avec le sien, qui lui a mené un peu la vie dure, hein, pendant 40 ans. Et comme tous les bons, comme tout bon enfant qui se respecte, on a toujours envie d'aller à l'encontre de ce que fait notre parent, nos parents. Peut-être. Je pense que c'est l'explication. Et puis, sûrement le fait de voir que il a des gamins, deux gamins qui sont passionnés. Alors mon frère, lui, est pas dans, il travaille pas au domaine, mais il est aussi dans le vin, passionné par ce qu'il fait. Et je pense que il se dit que le domaine est entre de bonnes mains, j'espère.
Alors je voudrais changer de sujet et profiter qu'on est avec un pur Muris alsacien pour poser des questions qui sont liées un petit peu au village et puis après au Bourgogne blanc de manière un peu plus générale. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi il n'y a pas de grand cru à Meursault ? Est-ce que les terroirs sont moins qualitatifs que chez vos voisins de Montrachet par exemple ?
Alors c'est une question qui est très intéressante, on doit retourner un peu dans l'histoire. Donc la classification des grands crus, ça date de 1937. À l'époque, la plupart des grands crus existants aujourd'hui s'appelaient tête de cuvée. Mais en gros, c'était la même idée. Et on retrouve les cuvées classées tête de cuvée du classement de Laval. La plupart sont en grands crus aujourd'hui. Il y en avait à Meursault. Notamment donc on va dire le trio de tête Genévrière, Perrière et la partie du dessus des Meursault Charmes que nous n'avons pas, aucun des trois.
C'est pas interdit de rêver peut-être.
Je n'arrête pas de rêver. Je dors très très bien et je n'arrête pas de rêver. Pourquoi il n'y a pas de grand cru ? Parce que à l'époque le syndicat de Meursault s'est dit que c'était pas forcément nécessaire. À l'époque, les grands crus ont été poussés en avant pour une raison commerciale. C'est-à-dire que sur les communes à l'époque où il y avait besoin d'apporter un peu de lumière, les grands crus sont arrivés. D'ailleurs, les noms de ces dites communes ont souvent évolué. On prend l'exemple de Vaune-Romanée, par exemple, dont le nom Romanée a été apposé à Vaune.
Gevrey aussi, par exemple, ou Chambol.
Chambertin, Alox, Corton, Puligny, Montrachet. Voilà. À Meursault, on est resté à Meursault. Le village, à l'époque, donc ne faisait que du blanc depuis toujours, ce qui n'était pas le cas de Puligny, par exemple, où il y avait beaucoup de rouge. Puligny est blanc depuis finalement très peu de temps, enfin une petite centaine, un peu plus d'une centaine d'années. À l'époque, il y avait du gamay partout en Bourgogne. Hein. C'était une mer de gamay ici. Un peu d'aligoté, évidemment un peu de pinot, mais il y en avait finalement très peu. C'était pour les vins dits fins. Et à l'époque, le vin était consommé comme un aliment. Donc la production de masse, c'était la règle. Le vin fin, c'était vraiment l'exception. Ce qui a changé. Et voilà, donc a priori, le syndicat de Meursault, c'est... en se réunissant, s'est dit que Meursault n'avait pas besoin de cette lumière supplémentaire, premièrement, et s'est aussi posé la question des successions. On venait d'en parler. Un grand cru dans une succession, c'est formidable, mais ça fait mal. L'État en prend un gros paquet. Il faut bien se préparer et aujourd'hui les valeurs foncières sont tellement gigantesques que c'est très 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 difficile de transmettre ce patrimoine. Donc au final, aujourd'hui, les Murisalsiens, en tout cas il y a à ma connaissance, aucun dossier de passage d'un premier cru en grand cru. Et donc, s'il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura jamais avant 10 ou 20 ans. Et je ne pense pas qu'un jour ce soit le cas. On est plutôt content comme ça. Les vins, aujourd'hui, n'ont pas besoin de ça. C'est bien.
Quand tu parles des raisons commerciales qui ont fait qu'on a mis la lumière sur certains terroirs, est-ce qu'en filigrane, tu nous dis un peu que c'est pas que la qualité des terroirs et des vins qui étaient faits sur ces parcelles-là qui a présidé au fait qu'on a classé des parcelles en grand cru?
Alors,
est-ce qu'il y a d'autres intérêts qui ont fait
qu'on a
créé les grands crus?
15%, voire plus, à mon avis, il est question de qualité. Comme je disais, les anciennes têtes de cuvée se sont retrouvées grand cru. Peut-être que dans 4-5% des cas, en effet, on a donné cette appellation à des terroirs qui étaient peut-être un peu moins bons. On peut prendre l'exemple de Clos Vougeot, qui est très très grand et tout est en grand cru. Peut-être à tort. Il y a eu aussi des rattachements. Et c'est là où rentrent en compte les discussions de l'époque. Donc, un tel a un grand cru. Il y a le premier cru, le futur, enfin, le premier cru qui est juste à côté, collé. Niveau qualitatif, ou parfois c'était assemblé. Je dis, vous pouvez me mettre ça en grand cru aussi? Ah oui, tu penses? Oui. Bon, allez, ok, on le fait. Ça concerne relativement peu de surface, faut être honnête. La plupart des grands crus existants aujourd'hui le méritent, je pense.
Autre sujet dont je voudrais profiter de l'expérience d'un mûrisé alsacien, un sujet moins marrant pour la Bourgogne et pour les blancs, mais c'est ce qu'on appelle la prémox. Donc l'oxydation prématurée des blancs, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça a commencé au milieu des années 90, millésime 95 ou 96, je crois. Et l'idée, c'est qu'il y a des vins blancs, plutôt sur des produits dans des belles communes et sur des beaux climats, qui ont commencé à s'oxyder un peu plus vite que ce qu'on aurait attendu, parfois au bout de 4 ou 5 ans de bouteille. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu en sais, en tout cas ce qui s'est passé, et comment est-ce qu'on a fait en sorte qu'aujourd'hui le phénomène est quasiment disparu, pour pas dire totalement disparu?
Ouais, c'est une époque un peu étrange où en effet les vins se faisaient plutôt bien et ça partait beaucoup moins bien en bouteille après. Alors c'est comme tous les problèmes, c'est multifactoriel. À l'époque, le marché américain poussait beaucoup. Alors attention, n'y a pas que les Américains qui... C'est pas à cause d'eux qu'on a fait des prémox. Mais avec le marché américain est venu un goût un peu plus sur des vins un petit peu plus gras, un peu plus puissants. C'est les grandes années du bâtonnage, du fût neuf, un peu marqué. Toutes ces pratiques qui, au final, amènent de l'oxydation. Qui fatigue les vins. Une qualité de bouchon un peu moindre. Et attention, on ne lance pas la pierre sur les bouchonniers, puisque ce n'était pas du tout 100% de leur faute. Mais ça, plus ça, fait que le vin est fragilisé. Des dates de récolte tardives aussi. À l'époque, on allait chercher ce chardonnay un peu doré dans les vignes. Mon père adorait, c'était un des derniers à vendanger dans le village souvent. Il aimait bien les vins très très riches, puissants. On faisait des élevages peut-être un peu plus courts. À Meursault, il a toujours été assez traditionnel d'élever ses vins deux hivers, donc 18 mois. Y a des belles caves dans ce village parce qu'on peut y creuser profond.
Ce qui n'est pas le cas de votre voisin.
Ce qui n'est pas le cas de notre voisin Puligny, qui n'a à cette cette malchance d'avoir la nappe phréatique qui est extrêmement haute. Et donc, on ne peut pas vraiment creuser de cave. Donc, les chais sont aériens. Et quand les chais sont aériens, dans les années 80, 90, voire avant, l'été, il fait chaud. On ne peut pas laisser les vins en fût dans ces caves aériennes, enfin dans ces chais aériens, puisque là, pour le coup, on parle de chais. Donc, il faut les soutirer et les mettre en bouteille. Et des élevages courts, évidemment, les vins sont légèrement moins stables. Alors, on peut les stabiliser avec des outils œnologiques, un peu de soufre, évidemment. Et pourtant, à l'époque, les doses de soufre étaient quand même relativement balèzes, quoi. On en mettait un peu à tous les stades. Donc, c'est pas qu'il manquait de protection, hein. Mais voilà, c'est un tout. C'est tous ces petits points-là, et tous ces petits points-là ont quand même pas mal changé. Je pense que la région a pris à bras-le-corps cette problématique, en essayant de faire mieux, quoi.
Tu viens de mentionner la couleur des raisins, enfin la couleur des chardonnays que ton père vendangeait. Est-ce que toi, t'as la même vision que lui, ou la même définition que lui de la bonne maturité d'un chardonnay ?
Alors, je pense que sa vision, elle a un peu évolué. Aussi parce que le climat a changé, hein, faut être honnête. Tu vas plus aller chercher un chardonnay trop tard aujourd'hui, ça peut être un peu dangereux, quoi, sur les niveaux d'acidité. Il y a déjà plus beaucoup d'acidité. Alors, si on attendait encore une semaine de plus, ça serait compliqué. Et on va prendre par exemple l'exemple des 2022. On a des vins qui sont relativement colorés. Et au tout début, je croyais être le seul. Je disais rien aux copains et tout. Je goûtais mes vins, je les voyais un peu dorés. Et je posais la question à un premier copain là, l'autre jour quand je vais déguster chez lui. Il me dit « Ah ouais, moi aussi, je me posais la question. Ils sont vachement jaunes. » Et oui, en effet, 2022, année extrêmement solaire. Hein, on a battu des records de température. Une canicule qui a duré très longtemps. Une énorme période de sécheresse. On prend 30 mm de pluie sur les mois de juillet-août. Par exemple, 2023, on prend 150 mm. Donc, des raisins qui ont doré très très vite. Pour autant, ils n'étaient pas mûrs. On l'a observé aussi sur 2023. Plus ça va, plus on voit que les pots dorent, mais à l'intérieur, c'est pas mûr. Donc, il faut attendre un petit peu, il ne faut pas trop se presser non plus pour essayer d'obtenir la meilleure maturité possible. Est-ce qu'on arrive tous les ans à avoir une maturité phénolique ? Je ne pense pas. Parfois oui, parfois un peu moins. Il faut essayer de faire au mieux. En tout cas, moi et mon père, on s'accorde sur le fait que les raisins, ils doivent avoir du goût. On fait pas les vins que moi j'aime bien si les raisins ils sont tout verts. Ça, j'y arrive pas, moi. Voilà.
Ce que je voulais voir aussi, c'est aborder, c'est peut-être le style des vins, de manière plus globale. Alors là, je parle plutôt au niveau des amateurs de vins. Tu as dû l'observer également, il y a eu quand même une recherche pour les vins blancs, des vins très tendus, très frais, donc voilà, cette espèce de lame de fond. Et c'est vrai qu'on avait un malin plaisir à dire aussi que ça venait un petit peu de Meursault, ce style. Toi, je sais pas si comment tu as vécu les choses, comment toi tu perçois cette évolution du style. Qui est toujours quand même recherché, hein, je pense, chez certains sommeliers, certains amateurs, et évidemment dans le milieu du vin nature. Ouais, et ça va peut-être à contre-courant, effectivement, de toi ce que tu évoques, hein, cette maturité de raisin qui est recherchée, ces raisins dorés, ouais. Etc.
Alors, clairement, moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette veine-là. Certes, j'aime bien qu'il y ait de la fraîcheur, mais le chardonnay tendu comme un rasoir, alors moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas fan du tout. J'aime... Je suis un gourmand, moi. J'aime bien, tu vois, quand dans un plat, il y a de l'amour. En gros, du beurre, tu vois. Et donc, dans un vin, je dois retrouver à peu près la même chose. Beaucoup de gourmandise. Je veux que ce soit ouvert, jeune, même jeune. J'aime bien que ça soit bien, bien charmeur. Donc non, c'est pas mon style. Est-ce que ça vient de Meursault ou pas? En tout cas, je sais que certains vignerons du village se sont battus pour ce style-là. Je dirais que parfois, ces vignerons en question sont en train d'évoluer. On voit leur date de vendange qui bouge un peu. Pour aller chercher autre chose, sûrement.
Et autre question qui est un petit peu liée, bah c'est l'utilisation de la barrique. En plus, toi, tu es pas ancien tonnelier, mais tu as travaillé pour une tonnellerie pendant plusieurs années. Et forcément, c'est un petit peu lié, hein, cette recherche aussi de vins un peu riches, certainement aussi avec un élevage en partie en barrique neuve, ou en tous les cas, de toute manière, 100% de barrique. Comment toi aussi tu te positionnes, puisque tu es particulièrement concerné, on va dire, par le sujet.
Ouais, c'est vrai. C'est une des choses qui aussi a pas mal évolué. Mon père était plus sur des élevages avec un peu moins de fûts neufs. Quoique, au final... au final c'était à peu près pareil, parce qu'il était à peu près sur 10-15%, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en blanc à peu près, mais avec des chauffes un peu plus poussées. C'était les chauffes des années 90, début 2000, il y avait un peu de café à l'intérieur, c'était un peu torréfié, toasté, on aimait bien ce côté là et ça amenait ce gras supplémentaire au vin. Aujourd'hui, on va chercher l'opposé. C'est des fûts qui sont avec des chauves qu'on appelle blondes. Ils sont quasiment incolores à l'intérieur. En tout cas, ils n'ont pas bruni. Et ces fûts vont avoir pour grand intérêt de relarguer beaucoup de fraîcheur, alors un peu de tanin de bois, évidemment, parce que ça on ne fait pas sans, mais ces tanins un peu frais, de bois frais, qui mettent du temps à se marier. C'est pour ça aussi que l'élevage long est intéressant. Et ramener de la fraîcheur et des amers, un peu de structure au vin, sans venir le beurrer un peu trop, tu vois. Raisin mûr, mais fût qui apporte de la tension, on va dire, pour contrebalancer un petit peu ou rapporter un peu de fraîcheur sur ces élevages longs, quoi.
Et est-ce que tu as essayé aussi d'autres types d'élevages, mais en restant sur Meursault? Bien sûr, il y a l'amphore, il y a l'inox, il y a le verre aussi qui peut être utilisé. Enfin, tu sais.
Ouais, tout à fait. Je goûte ce que font les copains. Je regarde. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé de choses qui m'ont transcendé dans ces divers contenants. Malgré tout, un jour j'essaierai sûrement l'amphore, le verre, je pense pas. Sûrement l'amphore. On travaille une ou deux cuvées en cuve tronconique bois. Donc des cuves de 5000 litres, où là vraiment l'impact bois est quasi inexistant. Mais j'aime bien mes petits fûts. Ils nous rendent la vie tellement, tellement plus facile aussi. On arrive à y loger des petites cuvées, on arrive à s'adapter on va dire à des millésimes qui changent de taille de récolte. C'est très pratique, ces petits trucs.
Est-ce que tu fais des élevages qui sont à peu près toujours les mêmes pour une parcelle donnée? Ou est-ce qu'en fonction du millésime, tu tu as tendance à allonger, raccourcir. Et question qui va avec, est-ce que tu as déjà testé pour certaines parcelles des élevages très longs ou significativement plus longs que ce que tu fais d'habitude?
Je vois où tu veux en venir. Je suis plutôt convaincu, j'aime bien que ça passe deux hivers en fût, mais je m'adapte. Et par exemple, là sur 2022, on voit que on a des rouges qui sont prêts un peu plus tôt, qu'on va certainement bouteiller au mois de décembre. En tout cas, on les a déjà soutirés, ils sont en cuve. Et curieusement, c'est Volnay et Pommard. Alors que nos Bourgognes rouges sont toujours en fût parce que je les juge pas prêts. Très souvent, la ligotée, je le mets en bouteille au mois de décembre. Donc celui-là ne fait pas deux hivers non plus. Après, quand je peux, quand les vins vont bien, j'aime qu'ils fassent ces deux hivers. Quant aux élevages plus longs, on y réfléchit très, très, très sérieusement. Il se peut que ça arrive très vite.
Ouais. Qu'est-ce que tu attendrais d'élevage plus long? Qu'est-ce que tu irais chercher avec ça?
Alors, ce que j'ai goûté et qui m'a beaucoup convaincu, alors c'est des exemples qui sont jurassiens ou...
Le voile, t'as envie de faire du voile, c'est ça, non?
Coquin. Non, pas de voile. On voit que sur ces élevages très longs, donc genre 3 ans, on voit que les vins, tu sais pas pourquoi, ils reprennent une fraîcheur monumentale, un peu plus d'acidité. Alors c'est perçu évidemment, parce que l'analyse ne change pas, et une profondeur monumentale. Donc, bon, il faut essayer, je pense. J'ai pas d'exemple là dans la région Côte d'Or. On a nos copains là, les affreux de nos gens qui ont un peu généralisé le truc et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et c'est assez perturbant de voir que en plus ils font à peine les pleins tous les 6 mois. C'est vraiment des feignants, tiens, en passant, si jamais ils écoutent. Non, ils sont extraordinaires. Et malgré tout ça, tu vois un vin qui est extrêmement frais, d'une extrêmement vibrant et pas boisé, alors que ça passe 3 ans en fût. Alors, ouais, ça donne des idées.
Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est une fraîcheur qui est différente de l'acidité.
Oui. Oui, absolument. Ouais. C'est, ouais, je sais pas, j'ai dit vibration, fraîche. Ouais. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est différent de l'acidité. Il y en a un peu, mais pas, voilà, pas plus que quand t'as 12 mois d'élevage. Hein. Oui, je sais pas de quoi ça vient.
Et tu t'as parlé du Jura, là. T'as des exemples précis en tête de vins qui sont faits comme ça et qui t'ont marqué?
Ouais, j'aime beaucoup ce que font les frangins d'Audane au domaine de Saint-Pierre sur leurs longs élevages. Ils ont commencé à... J'ai 2-3 2018 là dans en tête qui m'avaient saisi par ce côté frais sur ce millésime très très chaud. Ganva est un des précurseurs aussi. Qui fait des trucs quand même assez, assez solides, souvent. Dernier exemple en date, Jean-François Rousset-Martin, par exemple, sur des chardos surprenants, des chardos savagnins, des savagnins tout court. Ouais, y a des trucs balèzes, quoi.
Alors, je voudrais qu'on dézoome un tout petit peu. On a... effleurer un tout petit peu le sujet du changement climatique. Tu as parlé de millésime chaud, où vous avez appris à travailler. Donc, il y a quand même un changement climatique à l'œuvre, évident.
Indéniable.
Est-ce que la carte des bons climats, elle est en train de se redessiner en Bourgogne?
Elle se redessine. Et à mon avis, il y a des coins extraordinaires où un jour, il sera très, très compliqué de produire du vin parce qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est notamment les terroirs très calcaires. Alors, on est très exposé en Côte de Beaune. Parce que bah, des coins comme le mont Raché, hein, le mont Rachitique, il n'y a pas grand chose qui pousse là, si ce n'est de la vigne. C'était un des derniers trucs qu'on pouvait planter à cet endroit-là. Il se trouve que c'est un grand cru qui n'est pas mauvais. Je pense aussi, bon, sur Meursault aussi, hein, on a deux, trois endroits comme ça qui sont pleins de cailloux. Saint-Romain, il n'y a que du caillou, il y a très très peu de sol. Et donc, il n'y a pas de réserve d'eau. C'est des sols très drainants, pourtant exposés est, donc soleil levant, mais sujet à des gros soucis lors de sécheresse, quoi. Alors, pour l'instant, ça tient encore. Même avec 30 mm de pluie sur deux mois d'été, pour l'instant ça tient. La vigne est quand même assez résistante, résiliente, si on veut prendre des termes modernes. Mais jusqu'à quand? Le jour où il n'y a plus du tout de pluie, ça va être compliqué. Alors peut-être que ça n'existera pas, peut-être qu'il y aura tout d'un coup beaucoup trop de pluie, des gros orages violents, ça c'est sûr. Mais c'est des endroits qui dans certains millésimes, ça commence à poser des problèmes. On voit les vignes qui souffrent énormément, qui défeuillent au mois de juillet, fin juillet. Donc elles souffrent énormément. Donc elles vont vieillir plus vite, peut-être. L'avenir nous le dira.
Essayons d'avoir une note d'espoir un peu maintenant, s'il te plaît, sur le même sujet. Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des climats ou des communes aujourd'hui qui sont reconnues pour la qualité de leur vin, mais qui ne sont pas au firmament de la Bourgogne et qui, d'après toi, deviendront beaucoup plus importantes dans les décennies à venir? S'il y avait une ou deux communes sur lesquelles tu devrais miser, là, t'irais où?
On voit que les Hautes-Côtes s'en tirent très très bien sur ces millésimes plus chauds, où ça mûrit aujourd'hui parfaitement bien. Il y a plein de vignerons talentueux, donc c'est des coins qui sont très très intéressants au niveau de la viticulture. Alors où est-ce que je me dirigerais? Moi j'irais à Saint-Romain, tu vois, par exemple. Alors certes, c'est pas dans les... C'est pas sur le papier dans les Hautes-Côtes, mais c'est haut. Et c'est au niveau des Hautes-Côtes. Et j'irai là-bas parce qu'il y a, des sols de dingue. Beaucoup de calcaire. Mais il y a toujours un peu plus de pluie. Il y a à peu près 20-30% de plus de pluie qu'à Meursault. On est pourtant qu'à 7 km, à peu près. Et puis après, bah oui, il y a d'autres villages un peu plus éloignés, mais ouais, les Hautes-Côtes sont des endroits assez intéressants aujourd'hui. En tout cas, l'altitude.
Toujours sur ce même sujet du changement climatique, les régions sont quand même marquées par des encépagements assez particuliers. La Bourgogne, encore plus particulièrement, c'est majoritairement Pinot Noir et Chardonnay. Est-ce que c'est l'avenir de la Bourgogne ou est-ce que d'autres cépages vont devoir pointer le bout de leur nez pour répondre à ce changement?
Donc tu vois, au début de l'interview, on disait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la Bourgogne, c'était une mer de gamay. Donc la Bourgogne sait s'adapter. Il n'y a aucun doute. Le Pinot et le Chardonnay sont des très très bons outils. Et d'ailleurs les vignerons dès aujourd'hui pensent à leur adjoindre un cépage dit accessoire, Aujourd'hui, il y a des projets pour amener un petit peu de amener un petit peu d'aligoté ou autres cépages. Il y a des réflexions à ce sujet dans les parcelles, donc en complantation sur le village de Meursault. C'est un projet qui a été soumis à l'ENAO. Donc on attend leur réponse. Ça va pas tarder parce que il y a un réel souci aujourd'hui de s'adapter à ce changement climatique. Le syndicat d'appellation Bourgogne a mis aussi en route le projet avec une année de décalage, mais en gros ça va arriver. C'est inéluctable. Hein. On ne peut pas rester sur ces cépages qui sont exposés, même si on sait qu'ils poussent dans des régions très chaudes dans le monde, mais peut-être avec d'autres porte-greffes, d'autres types de sols. Donc, on peut changer de cépage, on peut le faire évoluer aussi en évoluant sur le type de porte-greffe, hein, comme certains porte-greffes arrivent à mieux résister que d'autres. Certains meurent, d'ailleurs. C'est le cas aujourd'hui. On a un vignoble qui, dans une de ses parties, dépérit parce que planté sur un porte-greffe très très sensible aux sécheresses. Oui, il y a beaucoup de solutions pour s'adapter. Et on est prêt à les adopter. Ouais.
Sur ce sujet, on entend les vignerons, les vignerons. En tout cas, le mot qui revient souvent, c'est l'adaptabilité. Face au changement climatique, est-ce que le succès et la demande des Bourgognes en ce moment correspondant à un certain style de vin est plutôt une contrainte pour cette adaptabilité demandée ou c'est une force ?
Non, c'est une force. S'il y a bien un moment où il faut le faire, c'est quand on a au contraire cette demande qui nous aide. Cette demande, elle apporte des moyens. Des moyens de travailler, ce qui fait que on va dire que le bon vigneron, il doit investir dans son outil de travail et donc dans sa vigne, d'une part pour l'entretenir, hein, qu'elle soit en état, pour qu'il puisse la faire vivre de la meilleure manière que possible, mais aussi la transmettre. Il faut investir dans son outil de travail.
Justement, est-ce que le vignoble bourguignon, il est en bon état en ce moment ? On entend un petit peu tout et quand même pas mal de critiques sur l'état général du vignoble. Il y a des gens qui commencent à s'alarmer un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça ?
Ouais. Le vignoble bourguignon, il est vieux. Il a en moyenne 55 ans, à peu près. 55, ouais, 60. C'est vieux. Quand on regarde dans les anciens textes ou quand on entend certains anciens du coin parler, quand la vigne était en foule, par exemple, à 20, 30 000 pieds-hectares, donc là on parle de préphylloxéra, les vignes étaient au final souvent arrachées à 30 ans, 35 ans, parce que il y avait une concurrence énorme, hein, 30 000 pieds-hectares, c'est compliqué pour la vigne. Et puis quand ils produisaient 20 hecto-hectares, ils étaient super contents. Et puis au bout de à 10 hecto-hectares, ils se disaient oh, elle produit plus rien, hop, on change. Aussi parce que on n'avait pas les mêmes contraintes qu'actuellement. Aujourd'hui, le vigneron qui tout d'un coup perd un hectare parce qu'il doit l'arracher, ça le fait pas rire. Ça fait un paquet de bouteilles en moins. On a les charges structurelles qui sont toujours là, nos employés qu'il faut payer. Bref, toute la vie d'une entreprise qui continue. Je serais tenté de dire que les vignes ne sont pas si vilaines que ça. Alors peut-être que je me bats pour ma paroisse, mais elles ne sont pas si vilaines que ça. Certes, il y a un dépérissement qui est dû à l'ESCA, qui est dû à un porte-greffe en particulier, ce fameux 161-49, qui nous pose beaucoup de problèmes. Il y en a eu beaucoup de plantés dans les années fin 90, début 2000. Et aujourd'hui, c'est des vignes qui arrivent à 30 ans et qui meurent, parce qu'elles ne supportent pas la sécheresse estivale, et donc elles meurent. On a pris un petit bout de temps avant d'en prendre conscience. Au début, on pensait que c'était une qualité de greffage qui était moins bonne, que évidemment il y a le changement climatique, que si, que ça. Mais bon, au final, à force de recherche, on s'est aperçu que ce porte-greffe avait un problème. En fait, ses veines, en quelque sorte, se réduisent avec le temps, avec la sécheresse. Et au bout d'un moment, un bouchon se forme et la sève ne circule plus. Donc, il meurt, tout simplement. Et il y en a beaucoup. Donc, ça fait des gros îlots de vignes qui s'arrachent en ce moment. Bon, bah, c'est comme ça. C'est la vie d'un vignoble. Mais peut-être qu'on devrait le renouveler un peu plus. Ouais.
Alors, on se dirige doucement vers la fin de l'interview, mais je voudrais, avant ça, aborder un sujet. Qui est le prix du vin en Bourgogne en ce moment. Il y a quand même une petite musique en ce moment dans les médias spécialisés ou chez certains amateurs, des discussions autour du prix du vin, des amateurs notamment qui regrettent de ne plus pouvoir acheter certaines bouteilles. Et il y a des gens qui disent que la Bourgogne commence à prendre un peu le chemin que Bordeaux a pris il y a quelques années et que la région va un peu dans le mur, pour être un petit peu trivial. Comment toi tu vois les choses sur ce sujet-là ?
Ces gens-là ont raison. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est dangereux. Ça va trop haut, trop loin. Donc ouais, mon point de vue, c'est qu'il faut sérieusement se calmer, quoi. Alors, il faut aussi l'expliquer. C'est pas dû uniquement, purement et simplement à la demande. Certes, ça en explique la moitié, mais pas que. Il y a la demande sur les bouteilles qui joue un rôle important, mais il y a aussi le poids du foncier. Il y a, comme toujours, il y a des transmissions qui sont en cours, il y a des ventes qui se font, et Le prix du foncier a littéralement explosé depuis une quinzaine d'années, à peu près, avec des étrangers qui arrivent pour acheter quelques parcelles ou des châteaux ou des domaines. Mais c'est souvent pas que des étrangers, la plupart du temps, ce sont surtout des Français.
Des grandes entreprises aussi.
Voilà, des gros groupes français, du luxe. Notamment, qui ça fait pas forcément du bien à la Bourgogne. Quand du jour au lendemain on double le prix de sa bouteille, c'est pas normal. Voilà. Alors on peut avoir l'effet demande, oui, ok. Les gens sont contents de boire du Bourgogne, mais ils étaient contents de boire du Bourgogne parce qu'il y avait un rapport qui a été pris qui était là. Le jour où ce rapport qui a été pris n'existe plus, les bouteilles, en gros, elles ne font que rester dans les caves. Elles s'échangent sur des marchés en ligne et elles restent dans les caves. Et des gens qui spéculent dessus. C'est d'une tristesse incroyable. Je ne comprends pas qu'on en soit arrivé là, en ayant eu en vue l'exemple de certaines autres régions. Moi, ça me fait peur. Donc, faut être très, très vigilant.
Est-ce qu'il y a des organismes ou des mécanismes de contrôle du prix du foncier ? C'est pas la mission de la SAFER d'essayer de contrôler un petit peu ça, justement ? Et de faire en sorte que ça évolue doucement, et pas que ça explose.
Je savais pas que t'étais venu avec tes armes, toi. Dangereux comme question, ça. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Alors la SAFER, elle existe, mais on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Voilà. Des exemples, il y en a des dizaines de domaines qui ont été rachetés encore très très récemment par des grosses entreprises, des gros négociants qui ont déjà 200 hectares, qui arrivent à racheter 10 hectares d'un coup. Et toi, quand t'es jeune viticulteur, que tu te lances et que t'essayes de choper un demi-hectare, c'est la guerre. C'est pas normal. C'est une situation qui est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Alors, je ne me suis jamais attaché à ce problème-là parce qu'on est content avec ce qu'on a au domaine. Je serais super heureux de pouvoir penser acquérir un petit bout de Meursault si jamais il y avait un de mes voisins qui en vendait. Mais c'est impossible. C'est plus rentable aujourd'hui. Hein, acheter, enfin, du moins au cours de la vigne aujourd'hui, tu ne peux pas espérer la moindre rentabilité avant une vingtaine d'années.
C'est quoi le prix aujourd'hui d'un hectare de Meursault s'il y en a un disponible?
Ouais, alors on parle pas en hectare, on va parler en ouvrée. Donc il faut multiplier par 24. Alors s'il y a quelqu'un qui a une calculette dans le coin, en gros on est à peu près à 60-70 000 euros l'ouvrée, donc il faut multiplier par 24.
Wow. Okay.
Donc tu dois frôler le million.
Ça fait 1,9 million.
1,2 million. Non, million
plus.
3.
1,7.
Ouais. 1,7. Ouais, t'es à peu près à 1,7 pour. Bon, là, c'est les prix dans les Meursault village, lieu dit des jolis coins, quoi, on va dire. Il y a deux, trois coins un tout petit peu moins chers.
Mais il y a aussi des plus chers dans les premiers crus.
Mais il y a aussi 10 fois plus cher dans les premiers crus.
10 fois plus cher.
Ouais. Donc, je te parle pas du prix du grand cru, évidemment. Donc, ça devient ridicule. Et évidemment, quand tu. Il y a des énormes problèmes pour les transmissions. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont obligés de vendre une partie de leur propriété pour pouvoir faire cette transmission à leurs enfants. Donc, ce n'est pas normal. C'est des situations qui ne devraient pas exister. Alors, certes, on sait qu'on est dans un pays. Socialiste, donc on va dire que la rente, puisque c'est comme ça que ces gens-là s'expriment, la rente n'est pas bien vue, c'est dangereux, mais c'est aussi du patrimoine qui peut se perdre. Après, il y a eu d'autres époques dans la vie de la viticulture locale où les vignerons n'avaient pas leurs vignes, ils étaient salariés. Ils n'avaient pas leur outil de travail, ça appartenait au clergé avant Révolution, ça appartenait aux seigneurs locaux. Bon, pourquoi pas, mais est-ce qu'on a envie de revenir là?
Tu dis que la rente n'est pas bien vue, si on change un tout petit peu de région, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec LVMH en Champagne, hein, qui sont en train de se construire petit à petit leur rente. Elle est déjà bien établie.
Ouais, elle est bien établie, ouais.
Et que c'est ce qui va se terminer dans peu de temps, quoi.
Ouais.
Ils seront ouais, situés et puis indétrônables.
Quand tu arrives à contrôler, on va dire quand deux entreprises contrôlent le prix du champagne, c'est pas normal. Ouais. Mais bon, c'est comme ça.
Bon, je te propose qu'on arrête avec les questions désagréables. Au début de l'interview, tu nous as dit qu'un peu plus jeune, tu étais passionné par les châteaux neufs du Pape.
Ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une autre région ou éventuellement un autre pays peut-être qui te passionne? En dehors de la Bourgogne, évidemment.
Oui. Alors, dans ma cave, j'ai presque pas de Bourgogne. J'essaie d'en avoir un peu, mais j'en ai pas assez. Et j'ai beaucoup d'autres choses. Le plus gros ou les plus gros casiers, c'est la Loire. Le deuxième, c'est la Champagne. J'adore la champagne. Qu'est-ce que c'est bon. On se régale avec toute cette génération de nouveaux, puisque à l'époque, les parents vendaient au CAFCOP souvent, ou à ces deux grosses entreprises du luxe. Et maintenant, donc, ils s'expriment et ils font leur champagne avec toute cette personnalité. Et là, vraiment, on s'éclate grave. Il y a des terroirs géniaux. Donc, voilà.
Ouais, il y a tout un mouvement en Champagne qui s'inspire de la Bourgogne. Parce que la Champagne, c'est traditionnellement une région d'assemblage. Enfin, traditionnellement. Ça a été longtemps et c'est toujours une région où on fait énormément d'assemblage. Mais il y a de plus en plus de domaines, et notamment de domaines indépendants, qui commencent à isoler des parcelles, à faire des vinifications parcellaires, à faire des cuvées parcellaires sur des terroirs très différents. À remettre aussi en avant le meunier, qui a été longtemps un cépage... peut-être injustement décrié. Donc c'est vrai que ça bouge beaucoup en ce moment.
Ouais, et ils ont bien raison, mais je les soupçonne presque de vouloir faire du Bourgogne dans pas longtemps. Ils se disent qu'avec le réchauffement climatique...
les coteaux champenois, c'est l'avenir de la Champagne, peut-être.
Dans 10 ans, ils vont faire du Bourgogne, ce qui me fait vraiment peur.
C'est peut-être ça le village sur lequel tu aurais dû miser. C'était Cramant, peut-être, ou le Ménil-sur-Roger, plutôt que Saint-Romain. Non,
t'as eu le prix du foncier là-bas aussi. Ouais. Non, mais sans blague, j'adore cette région en ce moment. Il se passe des milliers de trucs. Bon, évidemment, après, il y a nos voisins jurassiens qui font des vins extraordinaires. Bref, des bons vins en France, ça, on n'en manque pas. On commence à voir plein de choses intéressantes à Bordeaux aussi, qui est une région où j'avais... un peu plus de mal avec des vins qui manquaient un peu de fruits, un peu de fraîcheur. Et là, on voit quand même 2-3 trucs très, très intéressants qui se passent là-bas. Donc, c'est cool. Il y a vraiment une belle petite énergie. Je trouve que, pour être honnête, alors c'est peut-être parce qu'on en fait partie et qu'on a beaucoup de chance, mais la période qu'on vit aujourd'hui, la période viticole ou œnologique qu'on vit aujourd'hui, c'est une des plus passionnantes qui s'est jamais passée depuis le phylloxéra et tous ces changements. Le vin, c'était un peu, pas endormi, mais pendant 30, 40, 50 ans, où il s'est passé à peu près les mêmes choses. Il y avait une sorte de constance de production et de qualité. Et là, toutes les cartes sont en train d'être battues partout, dans toutes les régions. Je trouve ça passionnant.
Qu'est-ce qui te fait vibrer dans un vin ?
Ses défauts. Son âme. Les vins trop bien faits sont terriblement pénibles. Un vin avec des petits défauts, attention, hein, je ne suis pas en train de parler de grosses souris masquées. Des un peu de volatile, mais pas trop. Une profondeur. En tout cas, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Après ou avant le défaut, le terroir qu'il y a derrière. Voilà, sa longueur en bouche.
Dernière question traditionnelle. Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais aujourd'hui ?
J'ai l'air malheureux. Ouais, je suis super heureux.
Merci Pierre-Henri.
Merci à toi.
Pierre-Henri, merci infiniment pour ton accueil et ta générosité. Voici une discussion qui nous permet de mieux comprendre ce qui fait la spécificité de Meursault et de passer un moment précieux dans ce beau village. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Lappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !